Et maintenant, un bon boîte de casse.
Bonjour à toutes et tous, et bonjour Madame Agnès.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, Madame Agnès a des velléités de voyage astro.
Nomique.
Astronomique, avec un jeu de Bruno Fedutti et de Serge Lager, qui s'appelle Ad Astra.
Ad Astra.
Alors, Ad Astra a été, c'est un jeu de conquête spatiale, on va dire, qui a été édité sous sa version française chez Edge, sachant que l'éditeur initial est Nexus. Alors, tout d'abord, Madame Agnès, un grand classique, la boîte d'Ad Astra, à quoi est-ce que ça peut bien ressembler?
Ah, alors, c'est une jolie boîte mauve et violette avec Albator.
D'accord.
Devant une planète. Et puis il y a une sylphide et il y a un monstre.
Ok, voilà. D'accord. Donc le pitch du jeu est assez simple. Nous sommes tous des homo sapiens qui ont un peu bouffé toutes les ressources de notre système solaire, notre fameuse Voie lactée. On a un peu, on a colonisé toutes les planètes de cette Voie lactée et on a décidé, comme c'est en train de péricliter, c'est un peu d'actualité, on va dire, il est temps d'aller à la conquérir de nouveaux systèmes solaires.
Mm-hmm.
Le jeu est orienté vers une gestion de ressources puisque on va envoyer nos vaisseaux spatiaux sur des nouvelles planètes.
Mais peut-être on pourrait dire d'abord qu'il n'y a pas de plateau ou un très petit plateau.
Oui.
Mais oui, parce qu'on les envoie sur des planètes, mais qu'en fait, le jeu, ce sont toutes les planètes.
Exactement. Donc, le matériel, ce sont des tuiles rondes et belles qui représentent les différentes planètes qui vont s'articuler ou se réunir autour de différents soleils qui vont représenter, bien évidemment, ces différents systèmes solaires. Et ça, on va les placer sur la table. Donc, un soleil entouré de différentes planètes. Les planètes sont cachées au départ. Et puis, on a nos petits vaisseaux spatiaux et on va partir à la découverte de ces planètes.
Oui, alors, un petit truc. Par rapport à la nappe, il vaut mieux faire ça sur une nappe unie. Ah non, ça a l'air tout bête de dire
ça. Ne faites pas ça sur une nappe Ikea bariolée de plein de trucs phosphorescents.
Non, mauvaise idée. Donc il vaut mieux une nappe unie parce qu'on peut comme ça se faire son beau petit système solaire se balader dans la Voie lactée.
Exactement. Et donc, une grosse partie du matériel, ce sont ces fameuses tuiles rondes avec les fameuses planètes. Et on a aussi un plateau sur lequel on va compter les points et sur lequel va se passer la majorité du mécanisme du jeu, puisque nous sommes dans un jeu de ressources.
Et de programmation.
Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de programmation, Madame Agnès?
C'est un jeu avec des cartes. Et puis, on décide dans quel ordre on va mettre les cartes pour programmer le tour de jeu qui va venir.
Exactement. Donc, c'est un jeu de ressources. Pourquoi ? Parce qu'on va aller coloniser des planètes. Ces planètes vont nous apporter des ressources qu'on va pouvoir réutiliser pour construire, par exemple, des colonies, des usines, des vaisseaux spatiaux et des terraformations.
Ça, c'est mieux. C'est ce qui rapporte 4 points, ça.
Ça, c'est bien.
Oui.
Mais cette programmation va se faire sur le fameux plateau. Alors, avant de passer aux détails de la programmation, on va peut-être décrire encore les autres parties du matériel. On a des petites choses en plastique.
Oui, on va peut-être le faire dans l'ordre.
Oui, je vous écoute.
Donc d'abord, on a notre vaisseau spatial.
Oui.
Qui peut aller sur une planète pour la coloniser, ou bien qui peut se balader entre les planètes, ça s'appelle quoi ? Dans l'espace.
Dans l'espace interstellaire.
Voilà, dans l'espace interstellaire. Alors ensuite, quand on est sur une planète, on peut d'abord la coloniser avec une colonie. Voilà. On dirait une petite tente. Toi, tu vas dire une pyramide.
Une pyramide.
Ouais, moi, je trouve ça sur une petite tente. Enfin,
une piratente.
C'est une colonie.
Voilà.
Ensuite, ça rapporte une ressource. Plus fort que la colonie, on a l'usine.
Absolument.
Qui rapporte 2 ressources.
Qui ressemble à une usine.
Oui, ça ressemble à une usine ronde. Et puis après, on a la méga terraformation qui rapporte 4 points.
Alors, la terraformation, donc c'est quelque chose qu'on construit sur une planète. Et effectivement, ça rapporte 4 points directement, mais ça rapporte aussi 3 points quand on calcule les points. Alors, le but du jeu, avoir le plus de points, en fait, il y a une limite. Une fois qu'on dépasse les 50 points, le jeu se termine.
Oui, le premier joueur qui dépasse. Oui, ça va vite quand même. Hein. Enfin, ça va vite. Après 2 heures et demie, on y est, quoi, pour une première partie.
Donc, c'est un jeu à 3 à 5 joueurs, 13 ans et plus. Donc, ça donne un peu une idée de la complexité du jeu. Je ne pense pas que le jeu soit très complexe, mais il y a quand même la côté programmation qui apporte une certaine couleur au jeu, qui n'est pas accessible à des jeunes enfants, on va dire.
Non, et puis surtout, il faut voir avec quel joueur on joue, parce que si ce sont des programmeurs lents, on attend.
Oui, donc ça, c'est le défaut des jeux de programmation. On va rentrer dans le détail de la programmation tout de suite. Bon, c'est peut-être le seul défaut du jeu, si on doit en citer un, c'est que c'est un jeu de programmation et si on tombe sur des gros calculateurs, le fait de déposer à chaque fois la carte qui va programmer l'action suivante peut parfois prendre du temps, ce qui fait que le jeu va un peu tirer en longueur. Donc, je crois qu'il vaut mieux jouer sur l'impulsivité que sur la calculativité.
Oui, mais bon, le gros calculateur de l'autre jour a quand même gagné. Hein.
Oui, mais
bon. Ça, oui, mais bon.
On l'aura. La programmation va se passer avec une série de cartes. Chaque joueur a une série de 11 cartes en main. Et ces cartes sont de différents types. Il y a des cartes qui permettent de voyager d'un système solaire à un autre, ou bien d'une planète à une autre dans un même système solaire. Il y a des cartes de production de ressources. Il y a des cartes de commerce, donc c'est-à-dire qu'on va échanger des ressources avec les autres joueurs.
Non. Ce n'est pas comme un marché ou un souk, pour citer d'autres jeux.
Voilà.
C'est une carte où la personne qui l'a mise peut échanger avec les autres. Juste cette personne-là.
Oui, c'est ça. C'est dans un sens. C'est-à-dire, moi, j'échange avec qui veut, mais ce n'est pas tous les autres joueurs qui...
Non,
nous sommes d'accord. Et il y a des cartes qui permettent de calculer les points. Donc, quand on retourne cette fameuse carte-là, eh bien, on va calculer des points par rapport à certains critères. Et alors, le dernier type de carte, eh bien, c'est la carte de construction. C'est-à-dire que on va construire un vaisseau spatial, une colonie, une usine ou une terraformation selon ce qu'on veut faire et surtout la planète sur laquelle on se retrouve.
Et les ressources qu'on a.
Il y a un coût à payer. Une autre partie du matériel de jeu, c'est une fiche aide mémoire que chaque joueur a devant soi et qui représente d'un côté le coût des choses pour les construire. Donc, par exemple, une colonie, c'est une nourriture, une eau et du minerai. Tandis que se déplacer, ça nécessite une certaine quantité d'énergie en fonction du mouvement qu'on peut faire. Et de l'autre côté de l'aide mémoire, on a la valeur en points des différents éléments. Donc, on va calculer les points dans le jeu sur base, par exemple, du nombre de colonies, du nombre d'usines, du nombre de vaisseaux spatiaux, du nombre de terraformations ou encore le nombre de systèmes solaires dans lesquels on retrouve ses propres colonies.
Donc ça, alors ces points-là, ils ne sont additionnés que quand on décide d'utiliser la carte que tu disais tout à l'heure pour faire le total, la carte qui permet, comme ils disent, de scorer.
Voilà.
Parce que moi, je n'avais pas compris ça lors de la première partie et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai perdu.
Le reste du matériel de jeu, on l'a dit en partie, ce sont les 11 cartes de programmation que chaque joueur a. Et puis, on a une quantité de cartes qui représentent les ressources.
Donc, ce sont des ressources spatiales.
Donc, on a de l'eau, donc c'est une petite goutte d'eau. On a la nourriture, ça ressemble à un brin de blé.
Nourriture spatiale.
Voilà, lyophilisée sans doute. On a de l'énergie, donc il y a certaines planètes qui produisent de l'énergie.
Et ça, c'est très utile pour se déplacer.
Oui. Et alors, on a des différents minerais, où on voit que Serge Lager et Bruno Fedutti se sont fait plaisir, puisqu'on a du xanthium, ça, ça va encore. Et puis, on a du yodium et du zozodium. Et on a aussi un autre type de planète, qui sont des planètes aliens.
Oui, ça, c'est super. Moi, j'en avais pris plein. Enfin...
Alors, les planètes aliens offre des ressources, c'est-à-dire que le premier joueur qui tombe sur une planète alien, ou qui choisit une planète alien, va prendre une carte, il y a un tas de cartes artefacts aliens, et ces cartes, on propose une série de bonus du genre, on va prendre un au hasard.
C'est généralement pour obtenir des points ou pour embêter les autres. Oui, tu peux prendre au hasard.
Ah d'accord, donc le Materiae Mutator, donc jouer cette carte, lorsque une carte production est révélée, vous pouvez rendre à la banque les cartes ressources que vous recevez et prendre à la place le même nombre de cartes ressources de votre choix. Et alors il y a deux cartes qu'on propose pour la première partie de retirer du jeu, à savoir le Omnibus Rebus Responsum, dont la description est « Gardez cette carte secrète, révélez-la à la fin de la partie. Si vous avez exactement 42 points, vous êtes le seul vainqueur ». Donc ça, c'est assez costaud comme carte. Et alors, il y a le Magnum et Anticum Arcanum. En français, le grand secret oublié. Gardez cette carte secrète et à la fin de la partie, révélez-la pour marquer 10 points supplémentaires.
Ah, top.
Voilà, donc ça vous donne un peu l'idée de ces artefacts aliens. Ils ne sont pas tous aussi puissants que ça. Ceux-ci, ce sont les plus puissants.
C'est pour ça qu'on les enlève.
Lors de la première partie, c'est préférable, ça ne vous a pas permis. Enfin, on aurait peut-être dû les mettre pour vous, Madame Agnès, ça aurait été plus facile. Bien, comment se passe un tour de jeu? Donc d'abord, préparation, on l'a dit, système solaire sur la table, on organise entre 3 et 7 planètes autour de chaque soleil.
Joli.
et les planètes sont face cachée. Hmm. L'idée étant que quand on va se déplacer avec un vaisseau spatial dans un nouveau système solaire, le joueur peut prendre les planètes, il les regarde et il choisit laquelle il retourne finalement en laissant les autres cachées. Comme ça, il a le choix, il a le bénéfice d'être le premier dans ce système solaire-là.
Oui, comme ça, il sait ce qui reste dessus et les autres ne savent rien du tout.
Voilà, exactement. Donc, le placement est fait. Et puis, les phases de jeu sont très simples. On programme et on résout la programmation. Le plateau de programmation représente 15 cases différentes qui sont de la taille des cartes de programmation. Quand on joue de 3 à 4 joueurs, on va jouer sur les 12 premières cases. Quand on est à 5 joueurs, on joue jusqu'aux 15 cases. À son tour de jeu, le joueur peut placer une carte de programmation, donc comme je l'ai dit, voyage, production de ressources, construction, calcul de score, marché, échange, etc. Mais où il le veut sur la piste, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est le premier joueur qu'il doit mettre la carte sur la case 1. Il peut la mettre sur la case 12 ou la case 15 ou 9 parce qu'il prévoit que la séquence de programmation va être... favorable pour lui s'il la met sur la case 9.
Par exemple, il prévoit de faire un échange avant d'obtenir les ressources nécessaires pour construire.
Voilà, exactement.
Voilà, alors il va mettre l'échange d'abord,
ouais.
Et puis les ressources après, et la construction encore après.
Ensuite.
Mais oui.
Alors, chaque joueur va... Donc on va couvrir le tableau de programmation avec les cartes des différents joueurs. Face cachée, bien sûr. Et puis, une fois que c'est fait, on commence par la première carte, on la retourne et le propriétaire de la carte décide ce qu'il va faire avec. Pourquoi ? Parce que, un exemple très très simple, les cartes de production ont toujours deux icônes de ressources dessus. Donc si je prends une icône de production...
Au hasard.
Voilà. J'ai une carte avec, d'un côté... Une ressource nourriture.
Aliment.
Oui. Mm-hmm. Et de l'autre côté, un minerai.
C'est lequel ? C'est le iodium ou le xanthium ou le zozodium ?
Cette fois-ci, c'est le xanthium.
Le xanthium.
Et donc, le joueur qui a mis cette carte-là va décider si ce sont les planètes qui produisent de la nourriture qui entrent en action ou bien si ce sont les planètes qui produisent du xanthium qui rentrent en action. Et donc, c'est cette part d'interaction qui est là aussi, c'est-à-dire que le joueur va choisir à son avantage.
Oui, c'est stratégique. Hein.
Ben oui.
Vu que tout le monde en reçoit.
Exactement. L'autre type de carte, c'est les types de voyage. Sur les cartes voyage, il y a deux systèmes solaires. Les voyages ne peuvent se faire qu'entre ces deux systèmes solaires-là. Donc, chaque soleil dans le système solaire a une icône bien spécifique qui permet de la reconnaître. Et donc, ici, par exemple, j'ai une carte avec deux tout petits soleils, un jaune et un rouge. Eh bien, ça veut dire que tous les joueurs vont bénéficier de cette carte-là, comme la carte ressource d'ailleurs, et vont pouvoir se déplacer dans ces deux systèmes solaires-là, mais uniquement ces deux systèmes solaires-là.
Oui, alors attention, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cartes. Et oui. Donc, si on profite du système solaire de quelqu'un d'autre, et puis que quelqu'un d'autre n'utilise plus sa carte, on reste coincé dessus, on ne sait plus en sortir.
Donc, c'est un peu triste.
Oui, non, ça, c'est horrible.
Donc, chaque carte programmation bénéficie à tous les joueurs. Donc, quand on produit de la nourriture, tous les joueurs qui ont une colonie sur une planète qui produit de la nourriture reçoivent de la nourriture.
1, si vous avez retenu.
1, si on a une colonie. 2, si on a une usine.
Voilà.
Voilà. Alors, de la même manière, les cartes de score, il y a toujours deux icônes dessus. Par exemple, ici, j'ai une carte qui dit on score soit sur les colonies et les usines, soit sur le nombre de vaisseaux spatiaux. Et c'est le joueur qui a joué cette carte-là qui décide si on va scorer sur le nombre de colonies ou sur le nombre de vaisseaux spatiaux.
À son avantage, évidemment.
Il essaye, du moins.
Bah, sinon, il n'aurait pas joué cette carte.
Oui, on ne sait jamais.
Mais voilà. Non, donc, les joueurs sont intelligents.
Donc voilà, le jeu se passe comme ceci. Le premier joueur qui dépasse les 50 points clôture le jeu et je pense qu'on a fait le tour.
Oui, non, il y a encore plein d'astuces.
Oui, mais ça,
non,
on peut les découvrir.
Parce que, non, mais le calcul des points, quand même, moi, je me suis quand même bien fait attraper. Hein.
Oui.
Ben oui, parce qu'en fait, on augmente les points essentiellement quand on score. Mm-hmm. Donc, il faut penser à scorer.
Voilà.
Donc, quand au début, on se dit « ça, c'est pas important, c'est très important ». Et alors, on augmente les points quand on forme des terraformations aussi.
Oui.
Et alors, la terraformation, Il faut retenir aussi que ça garde toutes les propriétés de la planète.
Oui, c'est-à-dire, alors la terraformation, c'est une option un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on peut, faire une terraformation, donc c'est ces fameuses petites terres en plastique, sur uniquement deux types de planètes, les planètes avec nourriture et les planètes avec eau. Mais on peut très bien avoir une colonie sur cette planète-là, et la colonie continue à produire, même si on a terraformé dessus.
Mmh.
Voilà. Et l'intérêt de la terraformation, ben, c'est qu'il faut simplement... deux ressources de nourriture et deux ressources d'eau pour le faire, et qu'elle rapporte directement 4 points. Donc elle fait avancer directement de 4 points. Quand un joueur décide, quand on retourne une carte, et que c'est une carte de score pour calculer les points, évidemment tout le monde calcule ses points, mais celui qui a marqué le plus de points gagne en plus 3 points de bonus. Donc ce qui fait avancer encore plus rapidement vers les fameux 50 fatidiques.
Oui, et alors encore un petit truc, c'est qu'à la fin du jeu, ne compte que les points qui sont sur le fameux plateau. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'après on va aller recompter ce qu'on a comme, comme vaisseau, ce qu'on va recompter ce qu'on a comme colonie, comme ressources ou quoi. Non, non, non. Tout ce qui est scoré sur le plateau est, correspond au score qu'on a.
Voilà.
Oui, parce que moi, je n'avais pas compris ça. Et donc j'ai perdu.
Alors certains joueurs parlent d'Ad Astra comme étant un colon de Catan, mais sans la part de hasard. Et même Serge Lager en parle sur une vidéo du repère.net, je pense. On est dans un jeu de ressources, on est dans un jeu de colonisation et de production de ressources. On va devoir se déplacer et puis générer les ressources qu'il faut. Et donc on est proche d'une logique comme Catan, sauf qu'il n'y a pas de dés et que chaque joueur est maître de ce qui va être produit. Donc ajoutez à ça le contexte de programmation et vous en faites un nouveau type de jeu avec un plateau qui est évolutif, avec un design et un matériel qui est loin d'être moche.
Mm-hmm.
Et voilà.
Oui, il est chouette ce jeu.
Voilà.
Oui, pour ceux qui aiment programmer, qui aiment les jeux de ressources et qui sont nostalgiques d'Albator.
Absolument.
Voilà.
Une bande balafre et puis au lit.
Oui, ça lui manque.
Voilà, merci Madame Agnès.
Merci Monsieur.
On se retrouve.
Bientôt ?
Oui, sur le site de Soirée Terrible aussi.
Oui, www.soirée-terrible.be.
Ou bien sur boitecast.net.
Ah ouais.
Merci beaucoup et maintenant n'oubliez pas d'aller jouer.
Aller jouer à Ad Astra, c'est chouette.